Mesdames et messieurs, merci d'être venus pour entendre cet échange avec François-Charles Mougel au sujet de l'Angleterre. Alors, ceux qui ne connaissent pas, François-Charles Mougel a fait toute sa carrière à Bordeaux. Je crois qu'il est entré à l'Institut d'études politiques de Bordeaux en 1974, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, il a pris sa retraite l'année dernière. Donc, c'est une longue carrière à l'Institut de Bordeaux, mais une retraite... extrêmement active, comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'a pas plutôt quitté son enseignement qu'il nous sert une somme de 600 pages sur l'histoire du Royaume-Uni de 1900 à nos jours. Voilà, alors c'est un récidiviste parce que sa bibliographie sur l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, je ne sais pas, il précisera évidemment la terminologie en fonction de ce dont on parle. C'est un des charmes et des complexités de ce pays. Donc sa bibliographie sur le Royaume-Uni est extrêmement longue, donc je ne vais pas m'amuser à la détailler, elle comprend tous les aspects qui sont des aspects donc politiques, civilisationnels, diplomatiques, mentaux, j'allais dire, tout ce qui finalement touche à la britannité au sens très très large, c'est-à-dire finalement qui sont ces Anglais et comment fonctionnent-ils. Alors l'ouvrage que dont nous parlons ce soir, donc édité chez Perrin, cette histoire du Royaume-Uni, bon évidemment a une tenue universitaire, mais je précise tout de suite que c'est excessivement lisible et intéressant, très bien charpenté, comme François-Charles Mougel, en bon normalien, connaît donc l'articulation du discours, et donc son livre est extrêmement, extrêmement bien fait, ordonné donc en plusieurs parties, plutôt chronologique, mais pas seulement, et donc il envisage l'histoire du Royaume-Uni depuis donc un siècle. Alors pourquoi 1900 1900 parce que s'est tenu en 1901, c'est la date de la mort de la reine Victoria, dont chacun sait qu'elle a marqué l'histoire de ce pays par un long règne, plus de 60 années de règne.
Presque 64.
64 ans de règne, voilà. Donc une mort en 1901, à l'époque qu'on pourrait qualifier d'apogée du Royaume-Uni. Hein, c'est l'apogée, c'est-à-dire que c'est, disons qu'entre 1713 et 1901, le pays connaît une sorte d'âge d'or. Donc c'est la construction de l'Empire britannique, la consolidation de la puissance économique de ce pays, qui a été donc à la pointe de la révolution industrielle, donc la première révolution industrielle. Et donc en 1901, lorsque Victoria s'éteint, eh bien le pays règne sur un empire sur lequel le soleil ne se couche pas. Il a donc une quarantaine de millions d'habitants et dans le monde de 1900, c'est la première puissance du monde sur le plan économique, sur le plan de l'influence. Alors 1900, donc 1901, et puis aujourd'hui nous sommes en 2014, il y a deux ans, la reine Elisabeth, qui est toujours vivante et qui elle aussi est en train de suivre les traces de Victoria sur le plan de la longévité, pas tout à fait quand même, mais enfin on n'en est pas très loin.
62.
Donc elle va probablement donc atteindre la même longévité que Victoria, vient de fêter elle aussi son jubilé. Et donc c'était une bonne occasion pour l'auteur de tracer une sorte d'un bilan comparé de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni de 1901 et puis de ce Royaume-Uni de 2014. Alors un siècle, c'est énorme. Le monde a considérablement changé, mais donc c'est un peu la première chose que je voudrais demander à François-Charles, c'est quel est le fil rouge de ce siècle, c'est-à-dire l'Angleterre impériale, impérieuse de 1901, et puis l'Angleterre plus évidemment plus relative, j'allais dire, dans sa puissance de 2014. Finalement, il semble qu'il y a une très grande continuité quand même. Hein. C'est un peu ça qui est frappant. Est-ce que c'est ça qui vous frappe en premier?
Bon, alors, je vais d'abord vous remercier d'être venu participer effectivement à ce débat et de l'animer. Je dirais good evening parce qu'effectivement, ça s'impose à tout le monde et d'avoir bravé ce temps quelque peu britannique pour venir effectivement donc nous entendre parler un petit peu du Royaume-Uni. Donc merci à tous d'être là. Alors le sentiment que vous voulez me faire découvrir devant vous, c'est un sentiment qui est, à mon avis, partagé en deux. Jusqu'aux années Thatcher, il y a un sentiment récurrent de déclin. L'impression, il y a toute une série de livres, Il y a des Français, d'ailleurs, qui ont écrit là-dessus, comme Siegfried, en 1931, si je ne m'abuse. Et puis, il y a eu des livres. Dès la fin du 19e siècle, il y a un économiste qui a attiré l'attention des Britanniques sur, justement, les dangers que leur faisait courir à leur commerce la concurrence allemande. Et puis, jusqu'aux années 1970, il y a encore des livres sur le déclin, la chute du Royaume-Uni. Et Mme Thatcher, d'ailleurs, en a fait un des arguments majeurs de sa rhétorique. Et puis, curieusement, donc, aujourd'hui, le sentiment donc, change. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de déclin, alors que, si vous le savez, et je pense que vous le savez parfaitement, en France, nous sommes dans un discours volontiers décliniste. Alors que pendant très longtemps, nous n'avions pas un tel discours. Je crois que c'est la question de l'identité qui est en train de changer. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir continuer là-dessus, mais je crois que ça mérite effectivement d'être creusé, parce que l'identité britannique est en perpétuelle mutation. On a toujours l'impression, vu de notre côté de la Manche, que c'est un pays immobile, stable, compact. Or, c'est un pays qui est en complète mutation. Si vous prenez ce livre, et ce livre sera peut-être collector en septembre prochain, si jamais l'Écosse partait. Mais il faut se rendre compte qu'au début du siècle, là, quand Victoria fête son fameux jubilé de 1897, le Royaume-Uni, c'est tout l'archipel britannique, c'est-à-dire la taille à peu près de l'Allemagne unifiée d'aujourd'hui. Dès 1920, avec le départ de la majeure partie de l'Irlande, elle est à 245 000 à peu près kilomètres carrés, c'est-à-dire la taille de ce qu'était autrefois l'Allemagne de l'Ouest, ou la Roumanie. Vous voyez, donc ce n'est pas immense, et ça fait déjà une première amputation. Imaginez, ce n'est pas forcément sûr, hein, c'est même un peu délicat de le prévoir, mais si jamais l'Écosse partait, eh bien, l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni se retrouverait à 160 000 km². C'est-à-dire, pour vous donner un équivalent, l'ensemble que forment la Grèce et l'Albanie. Et on ne sait jamais, si jamais les Écossais donc, créent une dynamique, pourquoi les Irlandais du Nord, peut-être les Gallois, pourraient être saisis d'un prurite sécessionniste. J'ai vu, et Christophe l'a peut-être remarqué aussi dans l'actualité, que la semaine dernière, c'est pas vieux, les habitants de la Cornouaille, hein, donc cette toute petite partie péninsulaire du sud-ouest de l'Angleterre, devenaient une minorité celtique nationale au Royaume-Uni. Et il y avait une floraison d'articles disant pourquoi pas l'indépendance de tel ou tel comté. Bon, alors, n'exagérons pas, mais l'identité, sur ce plan-là, elle a énormément changé. On pourra peut-être y revenir, parce que les événements d'Écosse sont assez révélateurs de la façon dont les Anglais enfin, perçoivent d'abord leurs voisins du Nord, les Écossais, et ensuite comment s'articule le système de pouvoir en Grande-Bretagne. Alors, ça, c'est la première identité, celle du Royaume-Uni lui-même. Mais imaginez ce que serait l'équivalent pour la France si on avait déjà perdu, ne serait-ce que l'équivalent de l'Irlande. Hein ? Bon, on n'y pense pas. Quatre nations, c'est quelque chose qui est très différent à comprendre, parce que ça suppose aussi, et c'est un mot qui, je crois qu'on y reviendra à propos de l'Europe, explique beaucoup des comportements du Royaume-Uni, des comportements que l'on comprend mal, que l'on accepte souvent mal, avec l'Union européenne. Mais pour les Britanniques, le mot d'union a un sens tout à fait particulier, c'est l'union de quatre nations, mais quatre nations qui ont vécu ensemble, mais dont certaines ne veulent plus forcément partager le pacte national. Et puis alors, le sentiment de déclin, il a été alimenté par la perte de l'Empire. Hein, cet Empire, Christophe Lucet l'a rappelé tout à l'heure, en 1900, c'est 30 millions de kilomètres carrés, hein, comparez ça à 340 000 kilomètres pour l'archipel britannique, c'est 450 millions d'habitants. Donc c'est étalé sur tous les continents, et comme on dit, des taches rouges, effectivement. Vous savez que les Anglais ont toujours fait figurer leur territoire sur les cartes en rouge, eh bien, c'est effectivement quelque chose qui flatte les Britanniques. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, il y a le Commonwealth. Et je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un substitut. Qu'est-ce qui reste de l'Empire en termes de possession ? À peu près 30 000 km², même pas 300 000 habitants. C'est quelque chose qui a été très rapide comme décolonisation. beaucoup mieux gérée et mieux vécue que la nôtre, hein, la décolonisation française, on le sait, a été difficile, mais qui, dans l'inconscient collectif, a donné le sentiment de quelque chose qui était parti. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui le sentiment de déclin n'existe plus autant? Parce qu'aujourd'hui, il y a une réappropriation culturelle de l'Empire. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Grande-Bretagne récemment, il y a toute une série de bouquins qui sortent sur l'histoire de l'Inde, l'histoire du Canada, de l'Australie, toute une série de films. On peut se souvenir de Gandhi, qui a été un des premiers, il n'y a pas très très longtemps, qui montre que... Alors, qu'est-ce que ça flatte? Qu'est-ce que ça flatte? Ça flatte ce sentiment, et je pense que c'est un mot qui revient très souvent, et c'est au fond, et peut-être ce serait le terme final du fil rouge, et pardon d'être un peu long, mais c'est le sentiment de sublimation. Il faut toujours masquer ce qui est gênant dans la réalité pour le transcender à un autre niveau. Et le sentiment aujourd'hui impérial participe, à mon avis, de ça.
Alors, peut-être pour poursuivre, peut-être quand même sur ce sujet intéressant, est-ce que le Commonwealth, donc vous venez de le rappeler, donc existe toujours, quelques possessions qui sont. Alors, il faut peut-être préciser qu'à l'époque, à la grande époque de l'Empire, il y avait déjà au sein de cet immense ensemble des statuts extrêmement différents, parce que il y avait des territoires, il y avait des protectorats, il y avait des dominions, il y avait une vice-royauté. Donc les Anglais avaient une sorte d'inventivité extrême pour l'administration de ces territoires. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Commonwealth, finalement, ne bénéficie pas, finalement, dans l'esprit des Britanniques, de cette souplesse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les Anglais se sentent peut-être plus à l'aise que les Français, par exemple, dans cette mondialisation où ils sont, où ils continuent d'avoir finalement une influence culturelle, linguistique, de civilisation, des affinités, et que finalement c'est ça pour eux un empire, c'est ça plus que finalement la possession pure et simple, la possession économique et militaire, que d'ailleurs ils n'ont jamais vraiment exercé de façon très très étroite, sauf peut-être dans certains endroits. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être raisonner comme ça dans l'évolution du sentiment d'identité britannique vis-à-vis de leur grandeur passée?
Oui, tout à fait. Mais je crois que le mot créativité s'adapte tout à fait à la réalité de l'administration britannique, qui a souvent eu tendance d'ailleurs à déléguer au local. Ils ont appliqué la subsidiarité bien avant que ça ne devienne un mot à la mode, pour laisser faire effectivement les potentats locaux, les pouvoirs, les élites, les pionniers selon les cas, hein, de façon à le moins possible responsable de la gestion intérieur des territoires pour en garder, au contraire, le contrôle extérieur, ce qui était le plus important pour eux. Alors, ils ont trouvé tout de même, et ça c'est aussi une des vieilles constantes de l'histoire anglaise, britannique devrais-je dire, c'est le rôle de l'argent. Il ne faut jamais oublier que l'Empire a eu surtout au départ et pendant toute son existence, et aujourd'hui c'est encore le cas dans le Commonwealth, la dimension d'un réseau financier, dont la City de Londres est devenue, et s'est affirmée d'ailleurs dès le départ, comme le centre. Pour les Britanniques, la puissance de leur réseau bancaire, leur réseau financier, la puissance bien sûr de la livre sterling, c'est un élément constitutif de leur identité. Et ça explique d'ailleurs probablement pourquoi ils ont toujours refusé d'entrer par exemple dans l'euro. Pour eux, l'euro c'est... plus encore que pour le mark pour les Allemands, et on sait combien il a fallu un peu forcer le chancelier Kohl à accepter la monnaie unique, mais le mark avait connu toutes sortes d'avatars et était de création relativement récente. La livre sterling, elle date du Moyen-Âge, avec là encore des mutations multiples, mais elle s'est confondue avec le pouvoir britannique. Le pouvoir de l'argent, la fameuse cavalerie de Saint-Georges, qui a servi à cimenter combien d'alliances, et notamment au temps de Napoléon, mais pas seulement, c'est un élément constitutif de l'identité britannique. Alors, aujourd'hui, la mondialisation, elle n'est pas irriguée par la livre sterling en particulier. Le dollar, maintenant l'euro, le yen, jouent un rôle important. Mais la livre sterling est toujours là. Et la Banque d'Angleterre joue un rôle beaucoup plus important qu'un simple centre, j'allais dire, bancaire ou financier classique. Elle a une véritable fonction de représentation du pays. Et ça permet de toucher d'ailleurs aussi à un élément qui est ancien, puisque la Banque d'Angleterre date de la fin du XVIIe siècle, et vous voyez, donc elle a quand même une longue existence, eh bien, ça montre comment les pouvoirs se sont mis d'accord. Contrairement à la France, qui a toujours été obérée par ses problèmes fiscaux et financiers, depuis l'Ancien Régime, et je parle sous le contrôle de mes chers collègues, la Grande-Bretagne a trouvé, à la fin du XVIIe siècle, un moyen qui était la réunion donc d'investisseurs qui ont fondé la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre est une banque privée au départ, mais qui a bénéficié du crédit de l'État. C'est-à-dire qu'on lui faisait confiance et les crédits qu'elle rassemblait servaient donc à prêter à l'État, mais en étant sûr d'être remboursé, ce n'était pas à fond perdu, et ensuite de pouvoir irriguer un système qui allait aux dimensions de la planète. Et au XIXe siècle, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Mais aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe. La puissance de l'argent est un élément qui n'est pas simplement économique, c'est un élément d'identification nationale et de pouvoir diplomatique. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne joue un rôle considérable par les placements qu'elle a, par, excusez-moi, par aussi donc les aides qu'elle distribue. C'est un des pays qui contribue le plus à l'aide publique au développement parce que c'est un élément important de sa souveraineté. C'est pour ça d'ailleurs que face à l'Europe, elle se sent tout à fait distante.
Alors, vous commencez ce livre donc, par brosser le tableau de l'Angleterre un peu triomphante de 1901, mais évidemment, vous remarquez tout de suite qu'en 1901, il y a des nuages à l'horizon, que cette puissance, elle a des fragilités, des lacunes, que déjà, il y a une première mondialisation, les relations internationales deviennent plus tendues, la suprématie économique est un petit peu contestée, il y a l'Allemagne qui commence à monter, les États-Unis, nouvelle puissance, et donc il y a déjà ces fragilités, et dans les 15 années qui vont suivre le jubilé de diamant de Victoria, pratiquement 15 ans plus tard, l'Angleterre rentre en guerre aux côtés des alliés et il semble bien que ça soit avec une page totalement nouvelle sous, c'est-à-dire l'Angleterre insulaire et fière et impériale qui finalement rentre dans le jeu européen un peu de la pire des manières, puisqu'à travers une guerre qu'elle n'a pas vraiment souhaitée, dans laquelle elle va finalement de fil en aiguille s'investir pleinement et de manière tout à fait inattendue. Alors est-ce qu'il n'y a pas là une surprise finalement dans l'histoire britannique que ce basculement très rapide de l'impérialisme triomphant de 1900 à l'état de belligérant dans une Europe qui se déchire dès 1914 et où elle va jouer un rôle important, mais un rôle d'une puissance parmi d'autres.
Vous touchez là encore un des éléments importants de la façon dont les Britanniques se placent dans le monde. Les Britanniques, surtout à partir de 1815, ils ont commencé à le faire bien plus tôt, ont établi un jeu dont ils ont défini, eux, la règle et dont ils sont les maîtres. C'est-à-dire qu'ils veulent la paix, après avoir pendant longtemps fait la guerre, ils veulent la paix, ils veulent le libre-échange, ils veulent la domination monétaire et surtout pas de conflit en Europe ou de menaces de conflit en Europe. Ce qui veut dire, à l'époque, dans le monde, parce qu'aucun autre État extérieur à l'Europe ne constitue une menace, en tout cas pas avant la fin du XIXe siècle. Donc, pendant très longtemps, le jeu a été gagnant pour les Britanniques. Et par conséquent, ils pouvaient s'y tenir au centre, dans ce qu'on appelle le splendide isolement, parce qu'effectivement, dans ce jeu, ils sont partenaires. Mais partenaires j'allais dire, un peu comme le croupier à la banque, de la roulette. C'est-à-dire que c'est eux qui distribuent les cartes et qui ramassent la mise. Et ils ont pensé qu'effectivement, ça pouvait durer, et ça a duré, disons, largement un siècle, la fameuse Pax Britannica. Alors, la période que vous évoquez, c'est justement une période où les Britanniques se rendent compte que d'autres veulent définir leurs règles et, en tout cas, prendre une place particulière, concurrencer même le rôle dans ce fameux jeu européen.
C'est la période édouardienne, c'est le roi Édouard.
C'est la période édouardienne, c'est la montée notamment du Reich allemand, de l'Allemagne impériale, qui veut menacer la Grande-Bretagne sur mer. Quand Guillaume II annonce l'avenir de l'Allemagne est sur l'eau, en France, ça n'a pas fait un bruit énorme. Mais à Londres, ça a été une surprise considérable et une inquiétude majeure.
Oui, vous utilisez à propos de la Grande-Bretagne l'expression de thalassocratie. Hein.
Oui, parce que c'est une domination qui est appuyée sur, d'abord, les liens commerciaux, hein, mais aussi sur la puissance de la Royal Navy. 700 navires. Hein, quand le roi George V hein, sera couronné, donc en 1911, hein, il va faire une revue navale et il y a près de 80 km de navires qui sont alignés hein, près de l'île de Wight, et que le souverain passe en revue, c'est une vision grandiose. Non, je sais bien qu'il y a quelques...
La théorie, je crois d'ailleurs, c'est qu'il faut toujours que la marine britannique soit supérieure à la somme des deux marines qui viennent derrière.
Exactement. Donc, c'est une course en permanence en avant. Et les Britanniques se disent, bah, attention, si le jeu change, il faut que... Bon, on n'est plus effectivement les croupiers de la roulette. On est effectivement dans un jeu de bridge. Ou dans un autre jeu de cartes, et il nous faut donc des partenaires. Et ils ont fait un peu le marché. Les Allemands, d'ailleurs, voulaient, d'une certaine manière, nouer des relations étroites avec Londres, pensant que les uns auraient la mer et les autres la terre. Et puis finalement, donc, les inquiétudes que la puissance allemande suscite à Londres vont les amener à se tourner vers la puissance avec qui ils se sont... affrontés pendant des siècles, avec qui encore peu d'années avant, à Fashoda, ils ont failli en venir aux mains, la France. Et c'est un calcul, si vous voulez, alors, vu des deux côtés de la Manche d'ailleurs, hein, c'est gagnant-gagnant. On apure les contentieux coloniaux, les différents diplomatiques, et puis on fait une alliance. Mais, enfin, une entente cordiale, j'ai prononcé le mot hein. qu'il n'aurait pas dû prononcer, c'était pas une alliance. Parce que les Anglais ont pensé que tout en mettant effectivement donc un peu plus dans le contenu de l'entente que ce qui était prévu au départ, notamment des conversations militaires, en acceptant en 1907 d'élargir leur contact à la Russie. Ils se sont trouvés pris dans une espèce de réseau qu'on appelle la triple entente, hein, les historiens ont popularisé cette expression, et de ce fait, donc, ils se sont en fait piégés eux-mêmes. Alors, ils ont pensé jusqu'en août 14, enfin à la veille, disons juillet 14, que à ce jeu, ils seraient finalement gagnants. Ils ont proposé jusqu'au dernier moment des négociations pour essayer de résoudre la crise austro-serbe par des moyens diplomatiques, ou s'il y avait un conflit, le limiter à un conflit régional. Et ils se sont fait d'une certaine manière, donc, rattrapés par leurs engagements. Mais il faut se rappeler que l'engagement dans la guerre de 14, pour les Britanniques, n'est pas le même que celui des Russes, des Austro-Hongrois, des Allemands, des Français. Ils sont rentrés pour des raisons morales, c'est-à-dire la violation de la Belgique, de la neutralité de la Belgique. Et ils ont estimé que là, il fallait respecter les règles du jeu, que les Allemands ne les respectaient pas, puisque les Allemands, donc, dès le 2 août 14, ont violé la neutralité belge. Et c'est pour ça que les Britanniques, donc, ont lancé un ultimatum. Et sans réponse, donc, le 4 août au soir, ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc, on se trouve dans une situation qui est quand même différente. Et ce que ça signifie, pour les Britanniques, et encore aujourd'hui, c'est que la règle de droit, the rule of law, qui s'applique énormément à l'intérieur du Royaume-Uni, doit s'appliquer à l'extérieur. Et que ceux qui ne les respectent pas sont effectivement donc des non-gentlemen. Ils sont unclubbable. On ne peut pas les réunir dans un club parce que ce sont des gens qui trichent. Et ça fait jouer, et là je crois que c'est important pour la suite, le phénomène, en tout cas vis-à-vis de l'Europe. C'est que l'Europe est toujours la source des ennuis du Royaume-Uni. Et que par conséquent, donc, il faut toujours rester très méfiant vis-à-vis de l'Europe et ne pas se laisser prendre dans des pièges européens. Et je crois que cette attitude explique un peu des comportements d'aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr d'autres raisons que celles qui prévalaient en 1914, mais il y a l'idée que le continent, et quand on parle en Angleterre du continent, c'est bien sûr l'Europe, eh bien, présente chaque fois des risques. Alors, on peut l'utiliser, parce que le continent, au fond, a des forces, a des outils, mais ne jamais complètement s'y intégrer, parce qu'on risque à nouveau d'avoir des problèmes. Et ce qui s'est passé en 14, c'est confirmé en 40. ou en 39-40. Hein, c'est la même chose. Donc il y a toujours ce sentiment que le continent est dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que les Britanniques, il faut se rappeler que celui qui a prêché, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction européenne, c'est quand même Churchill, qui était à ce moment-là leader de l'opposition. Hein, mais en 1946, il va à l'université de Zurich, vous remarquerez, dans un pays neutre, et il va dire « je souhaite la création des États-Unis d'Europe ». Mais la Grande-Bretagne n'en fera pas partie, elle sera la marraine de ce nouvel ensemble que nous appelons de nos voeux parce qu'il sera fondé sur la rencontre entre la France et l'Allemagne, la réconciliation franco-allemande, et qu'il pourra devenir un ensemble pacifié. Parce que pour les Anglais, la construction européenne, c'est un moyen d'éviter les risques. Hein. Si l'Europe se construit, il n'y aura plus le conflit franco-allemand, et donc la Grande-Bretagne ne sera pas menacée. D'autant plus qu'à ce moment-là, en 1946, émerge le danger soviétique. Donc, il vaut mieux avoir un glacis rassemblé, qui sera finalement donc peut-être reconnaissant, ça, pas forcément sûr, à la Grande-Bretagne de l'avoir aidé à se regrouper pour faire face à ce danger qui pointe à l'Est. Donc je crois que tous ces facteurs-là, au fond, ils ont joué à la fin du 19e, début du 20e, mais ils continuent d'expliquer les attitudes d'aujourd'hui.
Alors oui, donc ce que ça m'évoque en vous écoutant, c'est vous avez assez bien résumé ce qu'on peut appeler les ambiguïtés britanniques, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, les raisons pour lesquelles, donc les raisons mentales, pour lesquelles le Royaume-Uni souhaite garder toujours son quant à soi. Alors peut-être que la différence entre le début de la période que vous décrivez et puis donc, la période d'aujourd'hui, mais assez vite au XXe siècle, c'est que finalement, sous Victoria, l'Angleterre peut se permettre de rester en dehors et de tirer les ficelles. Après 1914, c'est plus possible. Donc l'Angleterre peut conserver son quant à soi, mais est obligée de jouer le jeu, contrainte ou forcée, parfois dans son propre intérêt, parfois aussi obligée de le faire, mais elle ne peut plus rester dans ce fameux splendide isolement. Le splendide isolement est au fond une expression assez surannée, d'une certaine façon.
Complètement. Alors le jeu continue, parce que la Grande-Bretagne joue dans le jeu européen, mais vous remarquez qu'en ce moment, c'est un des enjeux de la politique actuelle, le Premier ministre donc a dit « si jamais nous sommes réélus, le Parti conservateur, eh bien, on provoquera un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne ». Bon, il n'est pas du tout sûr qu'il soit réélu, il n'est pas du tout sûr que le référendum ait lieu et qu'il soit forcément d'ailleurs hostile à l'Union européenne. Il faut quand même rappeler qu'en 1975, quand les Britanniques ont été appelés à voter sur la renégociation du traité d'adhésion, ils l'ont fait quand même à plus des deux tiers, hein, donc… Ça a été un vote d'adhésion relativement massif. Mais c'est parce qu'ils veulent qu'on change les règles, puisque si référendum il doit y avoir, il doit être précédé d'une renégociation. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, elle l'a fait pour Maastricht, hein, elle l'a fait au moment donc, du fameux projet de traité constitutionnel, elle va le refaire peut-être donc après 2015, c'est qu'elle veut redéfinir le jeu européen. Elle n'a pas voulu rentrer au moment où les six se sont constitués en CECA, puis ensuite en Communauté économique européenne. Donc maintenant, elle dit, je suis rentré, mais on change les règles. Et si vous ne voulez pas changer les règles, ben je m'en vais. Donc l'ambiguïté, c'est nous qui la voyons. Pour eux, il n'y a pas l'ambiguïté. Vous ne changez pas les règles, je ne reste pas. Voilà, je jouerai dans mon coin. Alors, il y a des substitutions. Parce que la Grande-Bretagne… je le dis en anglophile, il est certain que, et c'est toujours la même stratégie de sublimer l'effet du relatif déclin, c'est de trouver d'autres éléments. Et la relation avec les États-Unis en est un très bon exemple. Dès la fin du 19e siècle, alors que, comme vous l'avez rappelé, la Grande-Bretagne est au sommet de sa puissance, des gens comme Joseph Chamberlain, un ultra-nationaliste, hein, mais il parle déjà de la communauté anglo-saxonne, de la sphère, hein, de, complicité, fondée sur la langue, sur la culture, sur certains usages, sur la façon d'appréhender la politique, pour sublimer, au fond, l'idée que si la Grande-Bretagne n'est peut-être plus en mesure d'imposer une domination totale, elle pourra le faire avec les États-Unis. Au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où la Grande-Bretagne se considère toujours comme le troisième grand, mais comme dira Churchill, entre le gros buffle américain et l'ours russe, et il utilise lui-même l'expression, le petit bourricot anglais se sentait un peu à l'étroit. Eh bien, on va trouver un nouveau système, on va parler de la relation spéciale. La relation spéciale, c'est Churchill d'ailleurs qui va utiliser le mot, c'est un moyen effectivement de dire, on n'est plus les plus forts, mais on est les meilleurs. Et Macmillan, qui était un fin lettré, dira, oui, face à la nouvelle Rome, c'est-à-dire Washington, eh bien, la Grande-Bretagne, c'est Athènes, c'est l'intelligence, c'est le savoir-faire, c'est la capacité diplomatique et culturelle. Alors, à eux, effectivement, d'apporter les éléments de la puissance matérielle, économique. Mais c'est nous qui... Et si vous regardez... Alors, il aurait fallu avoir, effectivement, un élément, une loupe pour décrypter tout ça, mais lors de la guerre d'Irak de 2003, si vous avez lu, parce qu'on l'a beaucoup reproché, cette guerre, notamment à Tony Blair. Qu'est-ce qu'a dit Tony Blair? Nous allons suivre effectivement les Américains parce que nous pensons que la règle de droit doit s'appliquer. Toujours la même idée, la règle de droit, la guerre est juste. Mais en plus, sur le terrain, qui était là comme puissance au moment où l'Empire ottoman s'est effondré pendant la Première Guerre mondiale? La Grande-Bretagne. Nous connaissons le terrain, nous connaissons les habitudes et nous allons pouvoir effectivement aider les Américains. On ne va pas se substituer aux Américains. Mais les Anglais ont tenu à prendre Bassora, qui était la capitale du Sud, et ils ont toujours dit d'ailleurs, après, dans les discours aux Américains, mais regardez, à Bassora, il n'y a jamais eu les problèmes qu'il y a eu à Bagdad. Parce que vous, à Bagdad, vous vous êtes comporté de façon iconoclaste, alors que nous, nous savions comment il fallait gérer. C'est un discours de sublimation, c'est un discours de masque. Mais pour les Anglais, il a une réalité, il a une pertinence. Donc, on sait gérer, donc laissez-nous gérer.
Alors, parmi les éléments qui jalonnent, les éléments de continuité, alors pour le coup, de cette histoire anglaise sur un siècle, il y a évidemment la question des institutions. C'est-à-dire que finalement, les choses ont énormément changé à tout point de vue en Angleterre et dans le monde, mais il y a quand même des éléments de continuité qui sont donc la monarchie et l'articulation de la monarchie avec la démocratie représentative. Et même lorsque tout change, c'est-à-dire que par exemple, lorsque le duopole libéraux-conservateur laisse place à un autre duopole qui va être le duopole conservateur travailliste, évidemment le système va assez peu changer. Et quant à la relation avec la monarchie, elle va évoluer, mais finalement l'Angleterre va continuer de tisser et d'adapter son modèle. Alors est-ce que c'est là dans le domaine institutionnel un témoignage pour vous d'une profonde identité britannique faite de pragmatisme, donc d'adaptabilité, et en même temps de constance aussi dans ses principes, dans le respect de ses principes.
Alors, tout à fait. Et là, je vais retrouver à mon vieux passé d'historien des temps modernes. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne, enfin, l'Angleterre, plus précisément, puisque la Grande-Bretagne n'existait pas à ce moment-là, au XVIIe siècle, a connu des révolutions. Dont l'une, effectivement, celle de Cromwell, a divisé le pays. C'est une véritable guerre civile, exécution du roi. Donc, il y a eu un choc très profond qui a touché l'Angleterre, au-delà donc les îles britanniques tout entières, et même qui a eu des répercussions au moins symboliques dans le reste de l'Europe. Alors ça, cette révolution-là, personne n'en veut, plus personne effectivement n'en parle. Et d'une certaine manière, ça exorcise un peu le mot de république, même si Cromwell n'a jamais utilisé le mot de république, a utilisé le mot de Commonwealth pour décrire la relation qui unissait à l'époque les trois royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. La deuxième révolution, celle que les Anglais appelle glorieuse révolution. C'est celle-là qui, à mon avis, est importante. Elle se passe en 1688-89. Bon, en apparence, un changement dans la dynastie. Hein, on écarte la branche catholique et le roi catholique, Jacques II, et se substitue à lui donc la fille et le gendre de ce Jacques II, mais qui était protestant. Ce sont les ancêtres d'ailleurs, enfin pas directement, mais indirectement, donc de la reine actuelle.
Bon. Qui est en fait une.
Une Hanovre.
Voilà,
qui est une Hanovre dont on fête d'ailleurs cette année le tricentenaire de la dynastie.
Je rappelle qu'on l'appelle Windsor que parce qu'en 1917, voilà, il fallait changer le nom de la dynastie parce qu'elle sonnait allemand. Hein.
Voilà, parce que la dynastie de Hanovre était devenue par mariage, c'est le nom de règne de, enfin, de la dynastie de, d'Édouard VII, donc Saxe-Cobourg-Gotha, et qu'en 1917, Saxe-Cobourg-Gotha.
Ça la fout mal.
Voilà. Ouais. Résumé, c'est ça. Donc, on a changé le nom de Windsor. Là encore, vous voyez, on change les noms et ça permet la continuité. Alors, je reviens à mon histoire de Glorieuse Révolution parce que ça a, à mon avis, trois conséquences. Avant de reconnaître donc Guillaume III et Marie II, peu importe les noms, comme souverains, le Parlement, donc motu proprio, pourrait-on dire, a fait accepter par ces deux souverains, il y a eu une double titulature royale, il leur a fait accepter donc le Bill des droits, c'est-à-dire un texte qui codifiait d'une manière d'ailleurs très, très souple hein, la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et ce texte donc est toujours en vigueur, d'autant plus que, vous le savez tous parfaitement, la Grande-Bretagne n'a pas de constitution. Et elle n'a, pour le moment...
Quelle chance hein.
Voilà, vous qui en avons connu presque 22, on a une autre expérience. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de constitution? Parce que ça permet d'adapter la règle en permanence. Alors, les conséquences de cet accord entre le Parlement représentant l'ensemble de la population, hein, Chambre des Lords, des évêques, et puis donc l'aristocratie foncière, Chambre des communes, élus, un suffrage très, très censitaire, mais élu quand même, représentant donc la population des comtés et des bourgs. C'est un pacte donc politique qui va donc permettre ensuite de, par incrémentalisme, alors c'est un mot qu'aiment bien les amateurs de sciences politiques.
On va dire réformisme. Hein,
hein. Voilà, réformisme. On fait du cas par cas. Ça a permis donc de passer d'un système qui restait quand même encore au départ une monarchie, si, tempérée, mais une monarchie qui avait des responsabilités, à un système dans lequel le monarque a perdu ses responsabilités, dans lequel les partis politiques ont pu émerger, ils émergent d'ailleurs dès 1689, et au fond donc de conduire ce pays à une démocratisation, très lente, et qui vient du haut. Chez nous, la démocratie, elle a souvent été imposée par le bas, par des révolutions, par des mouvements d'opinion, oui, c'est parfaitement légitime, hein, mais dans l'Angleterre, elle vient du haut.
Vous parlez même de démocratie élitaire. Hein.
Alors, je vais venir aux histoires d'élite, parce que c'est un peu mon dada, mais je crois que ça explique...
Vous avez fait une thèse, d'ailleurs, hein, je crois que sur les élites
on
anglaises...
On ne se refait pas. Mais oui. Le système démocratique, il a été fait pour canaliser, et je pense que ça a été construit d'abord, pour éviter les révolutions. Je crois qu'il faut aussi d'ailleurs le rappeler. Pas de changement par la violence. Et la Grande-Bretagne a échappé, mais parce qu'elle l'a organisé au sursaut de 1789, 1830, 1848 et tous ceux du XXe siècle. Ce pays n'a pas connu de changement brutal, ni de régime, ni même d'organisation de ses pouvoirs. Et cette démocratisation, et c'est le mot de canalisation que je reprends ici, ça a été de faire en sorte que toutes les forces économiques et sociales trouvent un point d'aboutissement dans le cadre de Westminster, c'est-à-dire dans le cadre du Parlement. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre votre réflexion. Non, parce que le pacte de 1688-89, le Bill des droits, c'est un pacte politique au départ. Juridico-politique. Mais dessous, et c'est là que je reprendrai le terme que vient d'évoquer Christophe Lucet, élitaire. Qui c'est qui organise le pacte de 1688-89? La monarchie, bien sûr, mais la monarchie, elle ne sera reconnue que parce qu'elle aura accepté ce que les élites lui ont, en quelque sorte, imposé. Et les élites, c'est les représentants des forces vives de la nation. Alors, élite religieuse, qui à l'époque compte beaucoup, aujourd'hui moins, mais il y a toujours une représentation des évêques à la Chambre des Lords, l'aristocratie, donc foncière, puissance économique considérable, d'autant plus que l'aristocratie en Grande-Bretagne ne souffre pas du phénomène de la dérogeance, c'est-à-dire que les fils de famille et même les pères eux-mêmes peuvent avoir des activités économiques hors de la terre. Dans un pays où là aussi le droit est important, et ça va jouer au XVIIIe, XIXe siècle, quand on est propriétaire du sol, on est propriétaire du sous-sol. Ça va durer jusqu'en 1938. Ce qui veut dire que les mines de charbon que vous trouvez sous votre propriété, elles sont à vous. En France, vous savez que depuis donc la Révolution, le droit, le sous-sol appartient à l'État. Donc, ça, c'est les élites de la terre, les élites de la foi, les élites donc des communes. C'est qui ? Ce sont les notables du monde. Alors, disons industriel avec beaucoup de guillemets pour 1689, du monde de l'artisanat, de la production. C'est le monde des banquiers, c'est le monde des marchands, c'est le monde donc qui fait marcher cette économie déjà ouverte, qui est ouverte depuis très longtemps, donc vers le reste du monde. Donc le pacte, il est politique, mais il est aussi économique et social. Et par conséquent, donc, les élites se trouvent investies d'une mission de responsabilité. La traduction, et je vous l'ai donné d'ailleurs, je vous en ai donné le résultat tout à l'heure, c'est la Banque d'Angleterre. Tout le monde a intérêt à ce que le système marche. Parce que la confiance est un élément fondamental. Dans un pays où rien n'est écrit, qu'est-ce qui est important ? C'est le contrat. Mais un contrat qui reste verbal. Donc, vous n'allez jamais trouver dans le texte, par exemple, du Bill des droits, aucune mention des élites. Et vous n'en trouverez pas plus aujourd'hui. Mais ça existe. Alors, les élites de 1689, elles ont changé, bien sûr. Mais vous remarquerez qu'une bonne partie d'entre elles se retrouvent encore aujourd'hui aux commandes. L'aristocratie a conservé une bonne part de ses responsabilités parce qu'elle a su en permanence se renouveler. La City de Londres.
Se renouveler notamment en intégrant alors des
voilà.
Les nouvelles, c'est les nouvelles, de... les nouvelles puissances. Enfin,
voilà.
Les
ne jamais puissants. Être une caste, ne jamais être un isola, mais au contraire.
C'est quoi un exemple par exemple de cette intégration
Prendre tous les talents. Vous avez sûrement assisté il n'y a pas longtemps donc aux Jeux Olympiques de Londres. Celui qui les a organisés, c'est Lord Sebastian Coe. Lord Sebastian Coe. C'est un coureur à pied, c'est un champion olympique.
Anobli par la reine.
Anobli par la reine. Il est devenu membre de la Chambre des Lords, donc il a tous les... Il peut donc participer d'ailleurs au débat politique de la Chambre des Lords. Il vient d'être fait d'ailleurs compagnon d'honneur, donc c'est un titre supplémentaire réservé à une petite minorité. Pourquoi ? Parce qu'il représentait la méritocratie, il représentait donc l'esprit de gagne, et il représentait donc un élément de la réussite britannique. Alors, ça existe chez nous, nous avons les systèmes méritocratiques, bien sûr. Mais chaque fois, à chaque génération, quand une force vive arrive, donc on essaie au départ d'en cantonner un peu l'importance. Mais très vite, on lui donne une reconnaissance. Je prends l'exemple des syndicats. Dans un pays qui connaît donc au début du 19e siècle... les prémices et même le développement de sa révolution industrielle, les syndicats commencent à apparaître. Forces dangereuses, dirait-on, qui peuvent revendiquer, mettre en péril le capitalisme local. Qu'à cela ne tienne, dès 1824-25, on les tolère, on leur donne un rôle dans la vie économique, tout en faisant bien attention à ce qu'ils ne deviennent pas un syndicat unique. On va les légaliser en 1871, et toute l'histoire du 20e siècle, ça va être, et c'est pour ça d'ailleurs que ça rejoint encore une fois la politique, et ça montre bien que élite économique et élite politique sont liées. Vous savez que le Parti travailliste, donc, qui représente la variante britannique du socialisme, est un parti donc, qui, sur le plan des principes, pendant longtemps a été assez maximaliste, mais très modéré dans sa pratique, parfaitement légaliste, monarchiste. Déjà de dire ça, c'est un élément qui montre la capacité d'intégration du système. Mais il pouvait représenter, notamment après la Première Guerre mondiale, encore plus après la Seconde, quand le Parti travailliste obtient une grosse majorité, la première grande majorité de son histoire, une contre-élite, voire une nouvelle élite. Il parlait à ce moment-là, dans le programme électoral de 1945, du Commonwealth socialiste de Grande-Bretagne. Oh. Mais au lieu de se lancer dans un combat d'arrière-garde, qu'est-ce qu'on a fait? On les a, en quelque sorte, phagocytés. Et, pour ne prendre qu'un seul exemple, un de ceux qui a joué un rôle important, et ça nous permettra peut-être de parler de la monarchie après, c'est Georges V. Georges V, bon, n'a pas laissé un souvenir exceptionnel, a été en fait un des monarques qui a joué le plus de rôle dans la modernisation de la monarchie, beaucoup plus que bien de ses prédécesseurs ou successeurs. Et en 1923, et puis à nouveau en 1929, puis à nouveau en 1931, il y avait, surtout en 23 et en 29, Parlement donc sans majorité. Eh bien, il a, à ce moment-là, donné, et il l'a dit, sa chance au Parti travailliste, en disant qu'il valait mieux l'avoir à l'intérieur que de l'avoir à l'extérieur. Tout en s'assurant, si vous voulez, que, comme à cette époque-là, c'était un gouvernement minoritaire, eh bien, ce Parti travailliste, donc c'était sa première expérience au pouvoir, au fond, se comporterait de manière orthodoxe. Et on en a l'exemple en 1931. 1931, c'est la crise. La Grande-Bretagne est soumise à une hémorragie d'or et de devises. Le système s'effondre. Que fait Georges V? Eh bien, à ce moment-là, Macdonald, donc le premier ministre travailliste, démissionne. Hein, il a l'impression qu'il ne va pas être suivi par son parti. Immédiatement, le roi lui dit « Prenez la tête d'un gouvernement national. Je vous appuierai. » Et c'est ce que fait Macdonald. Mais quand Macdonald va prendre la tête de ce gouvernement national, qui va durer jusqu'à 1940, pas avec Macdonald tout le temps comme Premier ministre, mais pendant 5 ans, Macdonald va diriger, il va le faire avec une majorité où les travailleurs sont extrêmement minoritaires et une majorité conservatrice. Après 1945, alors vous allez me dire, mais là, il y a une majorité travailliste. Que va faire le système? Eh bien, le système, là aussi, c'est arrangé pour accepter ce qui était inévitable. Commencer par les nationalisations. Mais qu'est-ce qu'on a nationalisé? Ce qui marchait mal, hein, ou des secteurs qui étaient, en quelque sorte, en recul. Hein, je pense au chemin de fer, je pense au charbon. Donc, c'est une socialisation des pertes. Ce qui fait que le pouvoir du Parti travailliste a été toujours, en quelque sorte, entouré d'un élément, j'allais dire, de protection du système. L'aboutissement, c'est Tony Blair. Et je sais, je trouve sympathique Tony Blair. Mais le New Labour, c'est la gestion du système par un parti qui s'appelle d'ailleurs Nouveau Travaillisme, mais c'est du... Alors je ne dis pas c'est du satirisme à visage humain, ce serait méchant pour les néo-travaillistes, mais c'est pas la... contestation du système. Au contraire, c'est la façon de faire passer les principes de la mondialisation dans la société britannique en y mettant une rhétorique, la rhétorique de l'unité, la rhétorique du progrès, de la méritocratie, qui permet d'effacer le côté abrasif du thatchérisme et au contraire de le rendre plus agréable. Si Tony Blair est passé, et qu'il est resté quand même lui-même 10 ans au pouvoir, 13 ans pour le néo-travaillisme, c'est qu'effectivement, donc, il ne représentait plus un danger. C'est pour ça que dès 1689, donc, le pacte politique permettra l'évolution vers la démocratie, mais sans risque pour le système, pas de crise de régime, qu'il permettra une gestion élitaire, c'est-à-dire la participation de toutes les élites à la gestion du pays. Hein, tout le monde peut s'exprimer, mais il y en a qui sont immuables. L'aristocratie. Aujourd'hui, si vous voulez, je dirais que on n'est plus dans le système des années 60-70. 60-70, c'était un peu pour ceux qui se souviennent de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, hein, cette société de participation qu'avait voulu le général de Gaulle, capital, travail, État. Ce qu'on essaie d'ailleurs de retrouver un peu aujourd'hui dans le discours politique de 2014. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, c'est plus ça. Ça a été ça dans les années 70, les batailles qui se sont déroulées, et il y en a une qui a été sévère, la grève des mineurs de 1984-85, hein, ça a été la fin. Donc les syndicats, on peut les garder parce qu'on en a besoin, ce sont des relais, mais ils comptent plus. Donc ils ne sont plus dans les cercles du pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'État, la City de Londres et les Docklands, c'est-à-dire le pouvoir des médias. Hein. Donc c'est ça qui fait marcher le Royaume-Uni. Le reste, mais le pouvoir se maintient.
Alors donc de 1689, il n'est pas question de 1689
dans ce livre.
C'est évidemment en filigrane. Mais alors donc ce que vous soulignez, c'est évidemment la grande continuité et la grande adaptabilité du système. Donc vous l'avez souligné, pas de révolution, pas de crise grave, pas de crise de régime. On intègre les nouvelles élites, etc. Bon, n'empêche quand même que pendant ce siècle écoulé, le Royaume-Uni a connu des crises très graves. Alors des crises, je parle des crises économiques, la crise vous avez évoqué la crise des années 30. Il y a eu également ce qu'on appelait la maladie de langueur qui fait que le Royaume-Uni pendant une quinzaine d'années est apparu comme étant l'homme malade de l'Europe. Ça c'était dans les années 60-70. Et puis il y a eu plus près de nous la crise qui a été connue par tous les pays européens et occidentaux, la crise de 2007. Mais il y a eu aussi des révolutions, mais enfin quand même, vous utilisez le terme à deux reprises, et en particulier dans ce long chapitre que vous consacrez à la révolution thatchérienne. Il y a quand même eu là, en 1979, un véritable virage relativement violent. Vous avez cité 1984, la grève des mineurs. Là, il y a quand même un sacré coup de barre à droite avec comme des conséquences sociales lourdes et une Angleterre là, qui a quand même, j'irais, été à un moment donné sur le point de basculer, dans la guerre civile, n'exagérons rien. Mais enfin, il y a eu quand même une situation sociale extrêmement dure que vous décrivez, parce que là, il y a une Angleterre qui a besoin de se rénover, et ça ne peut pas passer par une simple continuité douce. Là, les élites, en l'occurrence, ressentent probablement la nécessité d'une sorte de coup de fouet, même si ça doit présenter des risques pour le régime.
Oui, il ne faut jamais d'ailleurs oublier que la société britannique, c'est une société violente, hein. c'est pas une société calme. On a toujours l'impression que c'est pacifique, c'est régulé. Non, c'est une société violente. Hein, et depuis très longtemps. Après tout, si les Britanniques ont inventé les sports, c'était aussi pour discipliner la violence interne. Hein, et on l'a vu encore, vous vous souvenez des phénomènes de hooliganisme, le Hazel, enfin bref. Et les révoltes urbaines qui existent. L'opposition à la poll tax, c'est pas une société, je dirais, molle. Mais c'est une société dans laquelle on arrive à canaliser la contrainte. Alors, vous avez évoqué, parce que c'est un élément, je crois, très important de ce XXe siècle, cette période de la maladie de langueur. On a parlé même de maladie britannique, hein, c'était à peu près donc contemporain de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing en France, et on disait l'Angleterre est en train de s'effondrer. Certains disaient même, on va passer pour l'Angleterre du premier cas d'un pays qui va aller à l'envers des autres, il va passer du premier monde au tiers monde. Et moi j'étais en Grande-Bretagne à ce moment-là, la semaine des trois jours, enfin c'était vraiment assez dramatique. Alors quand j'ai travaillé un peu là-dessus, et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, cette période a existé et il ne faut pas masquer évidemment ces réalités et cet affrontement qui a d'ailleurs beaucoup inquiété l'opinion anglaise d'un pouvoir syndical à l'époque qui paraissait très fort. Hein, et on a eu la semaine de trois jours et quand Edward Heath a provoqué des élections anticipées en février 1974, la question qu'il a posée à l'électorat, c'est qui gouverne ? Est-ce que ce sont les syndicats ou le gouvernement légitime ? D'ailleurs, il n'a pas une réponse très claire, puisque le Parti conservateur a été finalement éliminé sans que le Parti travailliste n'obtienne de majorité. Alors, si vous le relisez avec un œil peut-être plus attentif et en prenant peut-être les éléments par, en filigrane, au fond, les années de langueur, c'est la dernière grande bataille du mouvement ouvrier anglais. À mon avis, c'est là que, et les travaillistes, si vous regardez les mesures prises par Harold Wilson à la fin des années 60, et puis ensuite donc par les gouvernements successifs, ils ont au fond livré une bataille parce qu'un certain type d'Angleterre était en train de disparaître. Fin du mouvement ouvrier, c'est-à-dire le fin du monde de la révolution industrielle. Quand Mme Thatcher est élue, en 1979, je ne dirais pas que le combat est déjà fini, mais elle va apporter la touche brutale de la conclusion. Elle va mettre le système de la législation syndicale sous la coupe de l'État, elle va mener des combats qui auraient été impensables en 1974, ils n'auraient pas pu triompher des mineurs. Mais parce qu'en 1984, le charbon, ça ne représente plus grand-chose pour la Grande-Bretagne, et que dans le monde ouvrier, les mineurs ont déjà perdu beaucoup de leur importance. Donc on peut livrer un combat très dur, parce que finalement, le risque est faible. Et il ne faut pas oublier que dans l'électorat de Margaret Thatcher, qui, je vous le rappelle, a été élue en 1979, réélue en 83, réélue en 87, bon, elle a été chassée en 90, mais John Major, son successeur, a été élu en 1992, 18 ans. Eh bien, dans la, j'allais dire, majorité électorale, socialement, sociologiquement, vous avez un tiers de la classe ouvrière. Donc, vous avez des... Alors, en 79, on peut dire, ils ne savaient pas. Mais en 83, en 87, en 92, vous ne pouvez pas ignorer hein, le propos. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces années de langueur, hein, qui ont été incontestablement des années de déclin, marquent la fin d'un grand cycle historique fondé sur la révolution industrielle. Et c'est pour ça, pour revenir à notre propos de départ, que je pense qu'après 79, le discours de déclin s'efface progressivement. Parce qu'on est dans un autre monde. Alors, l'industrie, elle continue, mais c'est une industrie beaucoup plus moderne. Alors, vous allez me dire qu'en ce moment, l'automobile repart. C'est vrai, mais la vieille industrie, elle est quasiment morte. C'est une nouvelle industrie, très peu syndicalisée, beaucoup plus professionnalisée. C'est plus le monde de la vieille working class anglaise. Et puis, ce qui fait 80% de l'emploi, 80% de la richesse, c'est le tertiaire. Et c'est un tertiaire qui n'est pas syndicalisé, hein, dans lequel l'exigence et la réussite personnelle, c'est le culte de l'argent. Alors, avec des difficultés, parce que la vie en Angleterre n'est pas facile. Hein, et les inégalités, en ce moment, tendent à s'aggraver beaucoup plus que dans la période des années 60, où là, au contraire, ils avaient tendance à se réduire. Et vous voyez reparaître des comportements très ostentatoires, comme au temps d'Édouard VII, hein, où il y avait une élite, une oligarchie, pourrait-on dire, qui vivait fastueusement, et on la retrouve aujourd'hui avec, d'ailleurs, un peuplement cosmopolite. Hein. Vous avez beaucoup de Russes, de Qataris, de Saoudiens, hein, qui vivent en véritable nabab, hein, qui achètent d'ailleurs tous les fleurons. Nous, on est en train de discuter pour Alstom, mais beaucoup de fleurons britanniques sont passés sous pavillon étranger. La France a acheté Christie's et Sotheby's, qui sont pourtant les temples de l'art, enfin du marché de l'art, et bien d'autres choses. Hein. EDF est très important, et puis que dire des capitaux anglais, américains, pardon, japonais, russes et moyen-orientaux. Ça ne leur pose pas de problème, du moment que ça assure la prospérité. Alors, je reviens à mon histoire des syndicats. Je pense que là, ça a été le tournant. Alors, aujourd'hui, donc, cette puissance britannique, eh bien, elle donne l'impression à ses habitants que le pays a retrouvé un certain idéal. Et je crois que le mot qu'a utilisé Mme Thatcher, notamment pour sa politique extérieure, « Britain is back », le Royaume-Uni est de retour. Alors, on parle toujours souvent plutôt de « money, I want my money back ». C'est vrai que dans la négociation européenne, t'as un grand coup de sac je veux récupérer mes sous. Ça, c'est l'image de Mme Thatcher. Mais pour les Britanniques, c'est « Britain is back ». Et le discours décliniste disparaît.
Alors, ça ne veut pas dire que c'est pourtant facile. Ah, mais,
alors, ce qui pourrait aujourd'hui créer des problèmes, c'est justement des forces qui ne sont pas encore bien canalisées. C'est peut-être le problème de l'Écosse. Ça pourrait être aussi le problème, justement, de cette partie de l'électorat qui devient soit totalement indifférente, et c'est vrai que aux dernières élections, en 2010, il y a eu près d'un tiers d'abstention, ce qui est considérable. Et puis, alors, peut-être aussi, donc, ceux qui... les indignés, hein, jeunes, paumés, ou au contraire, cadres qui ne se sentent pas à l'aise dans le système. Alors, là, il va falloir voir comment... ça s'organise.
Bon, je vous pose une dernière question, on n'a peut-être pas tout dit. On a fait qu'effleurer le sujet, mais vous envisagez toute l'histoire britannique sur un siècle, oui. Qui est énorme. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la société, de la culture, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'identité britannique. Est-ce que au fond, en dehors des aspects matériels, institutionnels, est-ce que vous parlez beaucoup de britannité, d'identité. Au fond, par-delà les changements, les crises, les adaptations, il y a quelque chose d'extrêmement stable dans la culture, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire? Qu'est-ce qui est stable? Est-ce que c'est simplement la langue anglaise? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est une sorte de mentalité pragmatique? Est-ce que c'est l'amour de la couronne? Qu'est-ce qui fait cette stabilité quand même qui est un peu mythique en fait sur le continent? Quand on parle de l'Angleterre et du Royaume-Uni, on est très frappé par ça quand même.
Oui, on est très frappé parce que ça a été bien construit. Parce que la britannité, enfin ce que j'appelle la britannité, enfin que d'autres appellent aussi la britannité, Britishness, c'est un construit... dont beaucoup d'ailleurs d'éléments remontent en fait à peu, c'est-à-dire au XIXe siècle. D'abord parce que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, il n'apparaît officiellement qu'en 1801. Hein, jusque-là, l'Irlande était à part, et la construction de l'île de Grande-Bretagne, elle date d'une union, qui a été d'ailleurs une union des élites, hein, de 1707, c'est pas très vieux. Et on a vu d'ailleurs que pour l'Irlande, ce contrat pouvait être mis en cause. Donc, britannité...
Pour l'Écosse.
Non, mais pour l'Irlande, elle est déjà partie. Maintenant, ah oui. c'est l'Écosse qui commence à discuter. Donc, ça veut dire que nous, on confond souvent anglais, britannique. Enfin, bon, c'est pas très important. On parle d'Angleterre, de Royaume-Uni. Bon, pour eux, c'est pas pareil. Être britannique, c'est appartenir à un monde, d'abord, qui respecte les composantes du Royaume-Uni. Ce que d'ailleurs les Écossais maintenant, après les Irlandais, reprochent aux Anglais, c'est eux de considérer que ce qui est anglais est britannique, mais pas trop de tenir compte de ce qui est écossais, irlandais ou gallois. D'où d'ailleurs leur combat politique qui a été en quelque sorte, donc, sinon récompensé, mais du moins reconnu par la loi d'évolution de 1997. Mais en 1997, Tony Blair espérait que, en donnant la dévolution à l'Écosse et au Pays de Galles, et en arrangeant donc, les fameux accords du Vendredi Saint, de 1998 en Irlande du Nord, dans un contexte évidemment tout à fait différent.
Il avait réglé la question.
Et maintenant, ça revient. Hein, et c'est plus tellement en Irlande du Nord, ça revient très près du centre. Parce que la britannité, comme la tradition britannique, s'est déconstruite. L'anglais, alors pour nous, l'anglais, c'est une espèce de construction monolithique. C'est un combat, l'anglais. C'est le combat du sud de l'Angleterre, hein, de Queen's English, BBC English, Oxford English, c'est-à-dire l'anglais des élites. Vous allez dans d'autres régions, même des Anglais du Sud, ont du mal à comprendre. Hein, quand vous allez parler avec les Geordies de Newcastle, quand vous allez dans le sud-ouest de l'Angleterre, même certains Anglais vous disent « je ne comprends pas hein, ». Et il y a des accents locaux. Comme il y a des accents sociaux, hein, puisque selon la hiérarchie sociale, vous ne parlez pas la même langue. Donc, l'anglais... qui a été imposé au reste du monde, assez curieusement, c'est en Angleterre qu'il a le plus de mal, aujourd'hui, à se défendre. Non pas que, évidemment, on ne parle pas anglais, mais qu'on n'a pas le même discours en anglais. Si vous avez entendu par hasard à la télévision, à la radio, le discours des hooligans, c'est pas facile à comprendre. Hein, parce que c'est un... Alors vous allez me dire, nous aussi, on a les rappeurs, on a d'autres Bon. Mais d'une région à l'autre, nous avons des accents, mais on se comprend. Dans certaines régions britanniques, on ne se comprend pas. Parce que, donc, c'est un construit. Et la reconnaissance, justement, des langues locales peut effectivement poser quelques questions. Autre aspect, tout ce qu'on appelle dans la tradition, dans les comportements. Je pensais en vous écoutant au thé. Alors, anglais, thé, bon, c'est récent. Ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Et à votre avis, à quoi correspond la généralisation de la consommation de thé? Ben, au fond, à la célébration de l'Empire. Parce que le thé, c'est le produit impérial par définition. Donc, en prenant sa tasse de thé, hein, on communie d'abord de façon transclassiste. Hein, toutes les classes sociales boivent du thé, alors que dans les milieux populaires, on boira de la bière. Dans les milieux élitaires, on boira du gin ou du whisky. Je caricature. Mais volontairement, le thé est un discours national. Mais c'est un discours impérial. C'est l'Empire des Indes, la Birmanie, ce sont les relations avec les autres territoires asiatiques. Le culte du gentleman, hein, dont on fait toujours dire des Anglais, c'est le culte du gentleman, c'est récent. Ça s'est développé justement à partir du moment où l'éducation primaire, secondaire se généralise et qu'il faut donner des manières au peuple. Donc, on va ériger le modèle du gentleman, en sachant d'ailleurs qu'il ne sera jamais atteint par les autres. Hein, parce qu'on est gentleman, on ne le devient pas. Hein, donc, il faut 3 ou 4 générations pour être un vrai gentleman. Donc, on est à peu près tranquille. Mais en offrant cette référence, on n'a pas, nous, de comportement, de personnage social de référence. Or, le personnage du gentleman, il a été construit, il a été identifié, hein, de façon donc à représenter une sorte de référence sociale. Avec aussi, d'ailleurs, ce qui est un trait caractéristique de la Grande-Bretagne, le goût de l'excentricité, la soupape de sécurité. Il y a toujours en Angleterre une soupape de sécurité qui permet, en fait, de servir d'exutoire à ce qui pourrait être trop rigide. D'où, d'ailleurs, la mode des jokes. Hein. Chaque fois qu'on fait un discours en Grande-Bretagne, on commence par une plaisanterie, et tout le monde, depuis le haut jusqu'en bas, fait des plaisanteries. C'est construit, c'est voulu. C'est un élément qui, en mettant la communion sur le rire, permet effectivement donc une forme de discours. C'est ce qu'avait d'ailleurs mal compris Madame Thatcher, encore que, mais elle ne faisait pas trop rire. Alors que, au contraire, vous écoutez les discours politiques.
Ça me fait rire que Margaret Thatcher ne fasse pas rire.
Ben non, Iron Lady, la dame de fer, elle était relativement. Tina. Elle était un peu dans l'armure. Alors que vous regardez les autres, ils font tous a joke, parce que c'est un moyen, là aussi, donc, de dédramatiser et de construire le discours. Parce que ça n'enlève rien à la profondeur du discours ou à la brutalité du discours. Mais en le faisant de cette manière, on peut effectivement le faire passer. Donc, la tradition, c'est un élément aussi important.
Alors, je rappelle donc une histoire du Royaume-Uni de 1900 à nos jours, chez Perrin. Ça coûte que 25 euros. Hein, je précise, hein, mais il y a 570 pages.
Ah hein, oui, le nombre de pages.
Donc au ratio, c'est pas beaucoup. C'est très bien. Et en vous remerciant beaucoup de votre patience, ouais, et de votre compréhension.
Merci
et merci
beaucoup
à l'auteur.
Et merci à toi.